Ici, pas de pitié, pas de casque, même pas de jackstrap. Ça joue rough. Tout pour avoir le dernier mot. Voici les mangeux de puck.
Notre mangeux de puck est de retour. Fratello, bello mio, come stai, Marco D'Amico?
Ça va très bien, et toi?
Ça va super bien, merci beaucoup. Ce sont les seuls mots d'italien que je connais. Je pense que c'est la première fois que je t'ai introduit dans notre show en italien. J'ai pas fait la traduction, je sais même pas si FX et non. Ben ont compris ce que j'ai dit.
Absolument pas.
Fratello!
Fratello, mon ça frère. Veut dire mon frère.
Ouais, c'est bon.
Bello.
Mon beau.
Mio.
Mon beau.
Mon beau. Bello mio.
Mon chat.
Ben a dit mon chat, pour ceux qui n'ont pas compris. Ton chat s'appelle-tu Bello, Ben?
Non.
Non?
Mémine,
hein? OK, c'est bon. Après ça, comment
tu vas?
Comment ça va? Voilà ta leçon d'italien.
C'est bon, j'aime ça.
Vous direz pas que je vous ai rien appris aujourd'hui. OK. Là, on a des gros sujets, Marco, à discuter. D'ailleurs, c'est... En fait, ta gang, c'est BPM Sport, mais c'est aussi RG Media qui ont sorti la nouvelle comme quoi il y aurait eu des discussions entre les Canadiens de Montréal et les Bruins de Boston pour l'acquisition ou une transaction potentielle autour de Pavel Zacha. Pour toi, est-ce que Pavel Zacha est une solution logique pour le poste de deuxième centre à Montréal?
Je crois qu'après les commentaires de cette semaine-ci, il y a plusieurs partisans qui ne voient que Sidney Crosby en ce moment, mais la réalité, c'est il y a d'autres équipes qui vont rentrer dans ce décor-là. Donc, avec le Canadien de Montréal, tu as absolument besoin de trouver des autres solutions, t'arranger pour avoir d'autres enjeux sur la table. Et donc, en ce moment, ce que je sais, c'est que le Canadien, on en a parlé durant l'été, se sont interrogés tant qu'à la disponibilité de Mason McTavish. On a parlé de Jared McCann. Là, on apprend aussi qu'ils se sont interrogés tant qu'à la disponibilité de Pavel Zacha. Et la raison pourquoi les Bruins ne veulent pas l'échanger pour le moment, aussi simple, c'est que le Bruins croient qu'ils peuvent faire les séries l'année prochaine. Tout est possible quand tu as un noyau qui inclut Pasternak, McAvoy et Swayman. Donc, reste à voir qu'est-ce qui va se passer. Mais le Canadien a un intérêt à faire l'acquisition d'un joueur comme Pavel Zacha, vu, un, très bon dans les mises au jeu. Deux, très gros. Trois, pourrait très bien fitter dans le nucléus de l'équipe. Connaît très bien Kent Hughes, ancien agent de la même agence dont qui représente, dans le fond, Pavel Zacha. Et aussi, faut prendre en considération, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience en série aussi. Donc, c'est un joueur qui fit pas mal toutes les cases, et c'est aussi un gaucher. Donc, ça rentre dans toutes les cases qu'on a discutées, mais c'est peut-être l'option la moins sexy de toute la gang qu'on a faite à date. Donc, je peux comprendre, le monde va dire « Ah, OK, peut-être ». Mais la situation est, le Canadien doit se dresser une liste d'épicerie pour des deuxièmes centres au cas où ça ne fonctionne pas avec Kirby Dach. Et c'est un joueur qui fit beaucoup dans ce qu'ils veulent faire. Et ça fait partie de la colonne, parce qu'il risque d'avoir plus qu'une colonne, mais ça fait partie de la colonne stopgap, la colonne, disons, version Band-Aid pour le Canadien, qui permettrait aussi un peu plus de temps à Michael Hage de se développer.
Non, ici, Marco, il faut dire diachylon. C'est le nouveau mot secret du tailgate.
Diachylon.
Ça, c'est exactement ça.
Mais dis-moi, Marco, la dernière fois que le Canadien a transigé des joueurs avec les Bruins de Boston, ça remonte à 2001. Est-ce que pour
T'avais
toi...
T'avais quel âge?
Hey, écoute, j'avais 3 ans. C'est pour te dire, là, j'avais 3 ans. Alors, je me rappelle pas d'avoir déjà entendu une transaction entre le Canadien et les Bruins de Boston. Est-ce que ça,
transaction
ça peut...
hockey.
OK, parce qu'il y a eu un échange au dernier repêchage concernant des choix là, de sélection, mais en parlant de joueurs d'hockey, dernière transaction où des joueurs étaient impliqués directement, ça serait une première depuis 2001. Est-ce que ça peut ralentir les discussions ou empêcher qu'une certaine transaction comme celle-là arrive?
Non, écoute, les Bruins de Boston ont embarrassé les Leafs de Toronto en série depuis la dernière décennie et demie. Ça les a pas arrêtés d'échanger Brandon Carlo aux Leafs. Donc, pour moi, je me dis, si t'es capable de faire ça, et ensuite, les Bruins se sont fait sortir des séries par les Panthers de la Floride et échangent Brad Marchand aux Panthers aussi dans la division. Je pense que si le Canadien offre la main à Roff si, au moment où ce que Pavel Zacha est rendu disponible, je vois pas pourquoi il irait pas au Canadien de Montréal. Je pense pas que les Bruins sont dans une situation où ils peuvent se permettre de prendre moins sur un joueur ou une offre légèrement inférieure juste à cause du fait qu'il va aller jouer dans la même division. Je pense pas que Pavel Zacha nécessairement un joueur dans l'organigramme des Bruins ou ce que tu te dis, ce gars-là va nous brûler pendant des saisons. Je pense que c'est plus une voici un bon joueur qui pourrait être très bon dans une autre équipe. Nous autres, je parle de nous comme étant les Bruins, ont James Higgins qui s'en vient, Matthew Patra aussi, Elias Lindholm encore là. Donc, leur ligne de centre pourrait être très bien munie et ça leur permettrait, si bien sûr qu'ils sont hors du portrait des séries rendues à l'action de grâce américain ou à la date limite des transactions, ça leur permettrait de descendre encore plus bas dans le classement pour essayer de se chercher un Gavin McKenna, un Keaton Verhoeff et autres.
Mais là, c'est beau, là. Tu nous parles de Pavel Zacha qui cadrerait, puis il a 28 ans, puis il est gros, puis il est gaucher, puis tout ça.
Il a une autre année.
Puis FX aussi, il est bien d'accord avec ça. Puis lui, il aime beaucoup Pavel Zacha, puis tout le reste. Mais si Nazem Kadri est disponible dans le marché, qui, selon toi, serait la meilleure option entre les deux? Pavel Zacha ou Nazem Kadri?
Sans prendre en considération leur contrat, c'est certain que la réponse est Nazem Kadri.
Non, arrête. Le contrat fait partie de la discussion, Marco. C'est sûr que ça fait partie de la discussion. Comme l'âge en fait partie, comme tout.
Si on prend en considération le prix d'acquisition pour les deux, parce que Nazem Kadri va certainement coûter plus cher, même avec sa clause de non-mouvement, va certainement coûter plus cher que Pavel Zacha. Le fait que Nazem Kadri a 35 ans, un bon vieux bonhomme comme moi, et si on regarde aussi le fait que je veux pas le terme sur le contrat, le nombre d'années qui reste au contrat de Nazem Kadri, si je me trompe, il en reste 4.
Ouais.
Donc, t'sais, ça devient un problème si lui, son jeu commence vraiment à descendre, tandis que Pavel Zacha entre et présentement dans son l'apogée de sa carrière, dans son prime. Il y a beaucoup plus de risques du côté de Kadri, même si c'est un animal dans le gym et c'est un joueur qui est très en forme. Il y a un risque parce que c'est 4 ans à 7 millions que tu dois donner à ce joueur-là. Oui, le cap salarial risque de monter, mais à un moment donné, si tu veux essayer de bouger ce contrat-là pour faire place à d'autres, parce que tu sais pas à quel point les salaires risquent d'augmenter, on va en parler plus tard, ça va faire en sorte que tu veux avoir cette flexibilité-là quand tu es le Canadien de Montréal et tu veux pas payer ton troisième centre 7 millions par année. Donc, c'est un peu ça mon problème. La question de Zacha, il y a beaucoup qui rentrent là-dedans. Je crois pas que la coche nécessairement est trop basse entre les deux. Je crois, comme tout le monde, que Kadri est supérieur, mais ça coûterait moins. Le fit est là. Ça a de bon augure qui pourrait prolonger son contrat au nécessaire. Donc, tu as beaucoup plus d'années de valeur qui pourraient rentrer, tandis que Kadri, je pense que c'est plus 7 pour un club qui serait dans la fenêtre de compétition pour la Coupe Stanley maintenant. Et je pense que c'est là où ça change la donne.
Marco, c'est de la poésie de t'écouter. Sérieusement, là, tu m'enlèves les mots de la bouche.
Ma femme n'est pas d'accord.
Mais... Ah, moi, je suis d'accord, par contre.
La meilleure saison de Zacha, là, c'est 59 points en 78 matchs. Ça, c'est en 2023-24 pour les Bruins de Boston. 57 la saison d'avant, puis 47 la saison passée, en 82 matchs dans les deux cas. Pour le reste, on parle des saisons de 36, 35, 32. Là. Je ne remonterai pas jusqu'à ses débuts dans la Ligue nationale. Là. Donc, je comprends que, oui, il est plus jeune, il gagne moins d'argent, il coûterait moins cher. Et de toute façon, la transaction n'a pas fonctionné. Donc, je pense qu'on peut s'entendre que Pavel Zacha s'en viendra pas commencer la saison à Montréal. Comme probablement Nazem Kadri non plus. Mais quand tu regardes ce que Kadri accomplit à 34 ans, 67 points en 82 matchs, 75 la saison d'avant, 56, 87. Avant ça, c'était des saisons écourtées par les blessures. Ce qu'il a accompli avec l'Avalanche du Colorado, c'est une force aussi présentement avec les Flames de Calgary.
Oui.
Le gars va jouer, admettons, là, il reste 4 ans sur son contrat. Mettons qu'il en joue 3 bonnes avec les Canadiens. Là. Dans le poste de deuxième centre, là. et qui amène ce leadership-là. Tu dis que c'est un animal dans le gym. Il est reconnu comme un leader également dans un vestiaire. Il avait une mauvaise réputation à Toronto. Mais c'est drôle, il y a des joueurs qui ont des mauvaises réputations dans certaines organisations qui arrivent ailleurs. Puis encore une fois, je me répète, placez-nous un coup de fil à l'Avalanche, voir s'ils sont remis du départ de Nazem Kadri, admettons. La réponse,
non.
C'est non. Et même s'il a vieilli, un contrat comme ça, on le sait, maintenant, dans la réalité, et surtout avec le cap salarial qui va monter et le plancher salarial qui vont monter, c'est le genre de contrat qui, éventuellement, tu peux refiler dans une transaction ou quoi que ce soit. Pour moi, pour une année, admettons, de contrat qu'on paierait, admettons qu'on paye Nazem Kadri, ce que je pense pas, parce que quand tu as Kent Hughes qui est capable de faire de la gestion d'effectifs comme qu'il le fait d'une brillante façon depuis son arrivée à Montréal, je vois pas comment... Pourquoi on se contenterait d'acquérir ou de tenter d'acquérir un Pavel Zacha si on peut aller chercher un joueur de la trempe de Nazem Kadri pour piloter le deuxième centre?
Parce qu'il va te coûter plus cher, de un et de deux.
Il va t'en amener pas mal plus.
Ça dépend, c'est quoi le style de joueur que tu recherches pour être ton centre de deuxième trio?
Mais c'est quoi le style de joueur que tu recherches ton poste de deuxième trio? C'est-tu un gars qui fait 67 points ou c'est un gars qui en a fait 40?
C'est un gars qui gagne des mises en jeu, c'est un gars qui est fiable des deux côtés de la patinoire, c'est un gars que tu peux positionner là. Hey, il va jouer sur le même trio qu'un certain Patrick Laine. Il te faut bien un gars là-dedans qui soit bon des deux côtés de la patinoire, parce que Patrick Laine, aux dernières nouvelles la saison dernière, il bougeait pas beaucoup ses pieds, là. Puis c'était pas nécessairement monsieur repli défensif, non, mais
là, t'as un point. T'en as un solide point.
Mais l'autre affaire, les gars, qu'il faut prendre en considération, c'est que les meilleures saisons de Nazem Kadri ont été grâce aux joueurs avec qui il a joué. Tandis que l'utilisation qu'il a en Calgary, il ne va pas l'avoir avec le Canadien de Montréal. C'est impossible. Ça appartient à Nick Suzuki. Donc, c'est normal que ses chiffres vont descendre en conséquence. Pavel Zacha joue comme deuxième centre. La saison où il a eu 60 points, c'était parce qu'il jouait avec Pasternak. Il y a une bonne chimie entre les deux. Mais moi, je me dis ainsi. Moi, je ne regarde pas la fiche du joueur avant qu'il arrive ici. Bien sûr, il y a une limite. Il faut voir un peu d'acquis dans ses performances. Mais moi, je me dis... À quoi va avoir l'air ce joueur-là à côté de Demidov? Et c'est là la question, c'est là le fait. Parce qu'on a vu par le passé plusieurs joueurs exploser parce que la chimie a juste très bien fonctionné avec le joueur avec qui ils ont été mis. Et je crois que Demidov, qui lui aussi joue comme un centre sur la glace, même si c'est un allié, avoir un gros bonhomme comme Zacha qui est capable de suivre, pas juste cette année, pas juste l'année d'après, mais peut-être pour des saisons à venir, ça a beaucoup plus de valeur pour le club quand tu arrives en mi-saison. Parce que moi, ce que je me fais dire, c'est que Nazem Kadri ne veut pas partir de Calgary. Donc, ça vient clore le débat avec sa clause de non-mouvement.
Mais... J'aime tout.
Oh, mais toi, on sait. Toi, t'es une mauvaise foi. Non,
non,
mais
arrête de niaiser.
Je formulais ma question. Demidov est le genre de joueur. Là, on l'a vu aujourd'hui. On partira pas en peur avec ça, là, mais allez voir les extraits, ce qu'on a mis sur nos médias sociaux notamment. Vous pouvez voir également un peu partout. Là. Il a commencé le camp des recrues d'une popée façon.
Ouais, mais il a déculotté Bryce Pickford. Là.
Mais c'est pas tous les joueurs qui sont capables de faire ça. C'est ce qu'on voulait voir de Demidov.
Je comprends.
C'est ce qu'on s'attendait de voir de Demidov, on vient de le voir aujourd'hui. C'est ça. Maintenant, on va voir ce que ça va donner dans les matchs en fin de semaine. Ce que je veux dire là-dedans... Demidov est le genre de joueur. Tu as parlé de l'utilisation de Nazem Kadri. Dans des responsabilités un peu moindres, avec un peu moins de temps de glace, ça aussi, ça compte quand tu es rendu à 34-35 ans. Et de jouer avec un joueur comme Demidov, ça t'ajoute peut-être quelques années de qualité à ta carrière.
Oui et non. Tout dépend. Oui, parce qu'il y a moins d'impact sur une saison, mais n'importe quoi peut se passer sur une glace. Puis ça, on le sait, là, que tu joues 10 minutes, 9 minutes, 10 secondes, comme on a vu avec David Reinbacher durant la pré-saison passée. Il y a plusieurs facteurs dans un match qui peut faire en sorte que ta carrière plus ou moins passe par le long terme ou le court terme. Moi, ce que je dirais par rapport à Kadri, simplement, c'est que le risque est plus haut. Le pari pourrait être très bon, par contre, pour les deux ou trois prochaines années. Mais est-ce que le Canadien est rendu à un point où il pousse pour la coupe? Parce que la transaction d'un joueur comme lui, rendu à ta septième année, la quatrième année, ça se peut très bien que tu vas devoir peut-être racheter ce contrat-là ou ça va être rendu ton troisième centre qui pourrait te coûter quelque chose pour t'en départir. C'est là où est-ce que tu dois être un peu plus à l'aise et te dire, OK, est-ce qu'on va chercher quelqu'un qui va garder la place chaude pour un Michael Hage ou non? Et c'est là où est-ce que tu te demandes long terme versus court terme.
Ben dans les deux cas, c'est ça le point. T'sais, c'est les trois prochaines saisons pour laisser, deux ou trois saisons pour laisser le temps à Michael Hage de bien se développer confortablement. On a les vraies questions pour toi, Marco, au retour. Faut parler de Kirill Kaprizov. Là, faut commencer à parler de destination possible. Mais aussi, tout le monde se demande, RG dans RG Media, ça veut dire quoi?
Ici, ça joue rough. Tout pour avoir le dernier mot. Voici les manches de Paul.
Ce sont des informations fraîches qui sont sorties il y a tout juste une heure, FX, oui. Selon plusieurs médias, dont Research Grounds Media.
C'est qui ça, Research Grounds?
Research Grounds.
RG Media. Voilà.
T'es fort. Peux-tu nous donner l'info, s'il te plaît? C'est comme envoyé à la POC.
Selon les sources, le Wild du Minnesota aurait demandé au camp de Kirill Kaprizov sa liste d'équipes auxquelles il accepterait d'être échangé.
Toujours avec notre mangeur de POC, Marco D'Amico. Marco, selon toi, quelles sont les destinations logiques possibles pour Kirill Kaprizov dans l'immédiat?
Ouais, écoute, c'est toujours difficile d'essayer de prévoir des situations comme ça. D'ailleurs, le très bon Cam Robinson qui dit on devrait pomper un peu les freins sur cette situation-ci parce que c'est pas rendu là. Mais quand tu es dans une situation où ce que le joueur a une clause de non-mouvement complète, tu dois savoir avec qui tu peux discuter au cas où ce que tu peux pas en venir à une entente. Et c'est plus là ce qu'on en est. Donc, je ne sais pas s'il y a de quoi d'imminent en ce moment, mais est-ce que je sache, je sais que Renaud Lavoie en a parlé sur les ondes de BPM plus tôt ce matin par rapport à Sidney Crosby, mais Tampa Bay essaie de faire quelque chose. On entend beaucoup de Tampa Bay durant la saison morte qui essaie d'essayer d'améliorer ou de faire un splash durant la saison morte, puis peut-être même durant cette saison-ci. On a fait allusion peut-être à une équipe, Dark Horse pour Sidney Crosby. J'accorde que c'est une très bonne information reçue. Je pense que ça serait un fit idéal aussi pour Kaprizov dans ce contexte-ci parce qu'ils ont les centres en tant que tels et ils ont vraiment besoin de punch en attaque après Kucherov. Donc, c'est vraiment une équipe qui pourrait, en théorie, être dans une telle course et aurait les atouts présents et futurs nécessaire pour essayer de conclure une transaction. L'autre affaire, c'est que avec certains de ces joueurs-là, l'agent de Kirill Kaprizov, Paul Theofanos, est aussi l'agent d'Artemi Panarin. On a déjà vu cette situation-ci jouer. Où ce que Kaprizov à New York, que ce soit avec les Islanders ou les Rangers, aurait beaucoup de sens, spécialement avec les Rangers, si Panarin s'en va et Kaprizov arrive, ben c'est 11 millions qui sort, puis on verra le salaire qu'il signerait avec les Rangers, mais les Rangers seraient une cible idéale. J'ai entendu beaucoup tape aux rumeurs des Blackhawks de Chicago. Je pense qu'ils ont les atouts pour faire un échange, mais pas nécessairement les atouts actuels que rechercherait le Wild pour ne pas entamer une reconstruction complète pour échanger pour un joueur comme Kaprizov. Et donc, le fit serait là. Je pense que l'équipe serait petite en Titi en termes de stature, mais il y aurait un talent élite absolument incroyable dans cette ligue. Il serait vraiment un club qui serait construit côté talent pour gagner des coupes. Il suffit juste d'ajouter un peu plus de mordant dans cette équipe-là. Ouais, c'est les équipes que j'ai entendues.
Parce que j'allais te poser la question, est-ce que les Sharks de San Jose seraient une destination possible? Mais là, tu me dis que le Wild veut éviter une reconstruction. Et chez les Sharks, ce qu'on pourrait donner, ce sont des espoirs ou des choix au repêchage.
Je sais pas. Tu sais, New York, c'est l'exemption, je dirais, les clubs à part parce que c'est New York. Mais je dirais, je sais pas si ça irait vers des clubs californiens vu le fameux jock tax en Californie. D'ailleurs, je pense pas que Mike Greer est là nécessairement. à faire ce genre de transaction-là, spécialement lorsqu'ils s'enlignent vers le bas de du classement cette année pour repêcher pour une dernière fois, potentiellement dans le top 3, sinon top 5 du repêchage. Donc, c'est pour ça que je me dis, c'est peut-être pas ce fit-là. J'ai eu les Ducks d'Anaheim qui m'ont été avancés parce que les autres sont un peu plus loin dans leur construction, ont l'argent pour faire ce genre de transaction-là et ont certainement les joueurs courants et futurs pour faire une transaction de ce côté-là. Et d'ailleurs, quand tu vas chercher un entraîneur comme Joel Quenneville, qui lui connaît très bien cette situation et a très bien fonctionné avec d'autres clients russes dans la Ligue nationale, je pense que ça serait un fait aussi. Mais ça, c'est de la pure spéculation parce qu'avant qu'on rentre dans où serait le bon fit, c'est toujours une côté de transaction. Et c'est là vraiment où ce que il faut avoir les atouts nécessaires pour aller chercher un joueur comme lui, parce que ça sera pas un échange direct, selon moi. Si tu échanges un joueur comme Kaprizov, c'est un sign and trade. Tu veux l'échanger avec un contrat en banque parce qu'il y a un club qui veut nécessairement lui donner son fameux 18 millions par année.
Moi, j'ai hâte de voir le prix, mais surtout quand tu regardes les actifs que tu vas devoir donner, puis les Rangers, ça a déjà sorti un petit peu partout dans les derniers jours qu'on se prépare depuis la saison dernière à cette éventualité-là, qu'un gros joueur se libère, là, que ce soit McDavid ou que ce soit justement Kaprizov. Écoute, s'il s'en va là-bas, juste que Lightning, ça pourrait être intéressant. Tu donnes quoi? T'as plus de choix de première ronde jusqu'à peu près en 2052. Là. Merci, Marco.
Ben, 2052, je pense que 2027, si je me trompe. Faudrait que j'aille vérifier 2028. Mais rendu là, c'est je pense pas que c'est ça que recherche nécessairement.
Non, Wild, ça va pas coûter 4 choix de premier tour non plus. Là. Il va en avoir dans cette transaction-là, mais ça prend des joueurs d'impact maintenant aussi. Là.
Hey, mais on manque de temps, mais Marco a mentionné 18 millions de dollars. Alors pour toi, est-ce que Kirill Kaprizov est trop gourmand à refuser une offre de 16 millions ou pour toi, c'est dans le cas de Kaprizov, c'est pas nécessairement qu'il est trop gourmand?
Ben écoute, je pense que il y a beaucoup de feu dans cette situation aussi. Il y a beaucoup de pourparlers qui se passent et qui liquent d'un bord comme de l'autre. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas de problème contractuel entre les deux puis ça se parle.
Okay.
Je pense que le problème ici, c'est que le proprio du Wild du Minnesota est sorti pour dire on veut garder Kirill Kaprizov et on serait prêt à le rendre le joueur le plus payé dans la Ligue nationale. Le problème dans cette affirmation-là, c'est est-ce que tu veux faire cette affirmation-là avant ou après que Connor McDavid signe sa prolongation? Parce que c'est ça qui joue dans la situation en ce moment. Moi, ce que je me fais dire directement du Wild, je viens juste de recevoir un texto en ce moment de quelqu'un du Wild qui me dit tout ce qui passe en ce moment, c'est de la fausseté. Qu'ils n'ont pas demandé la liste, en fait. Je reçois cette information live. Donc,
on est sur la nouvelle. On tue la une. Vous l'avez entendu ici, là, comme quoi que c'est faux. La liste ne s'est pas faite demander.
Liste s'est pas faite demander. C'est ça que je me fais dire en ce moment.
En même temps, si t'es le Wild, veux-tu vraiment révéler cette information-là? Tu veux garder ça dans ton jeu?
Avec une clause de non-mouvement, je pense que oui, parce que s'il y a des clubs, si tu arrives dans une situation là où est-ce que tu dois échanger ton joueur, tu sais, on se met dans la peau des Islanders de New York cet été quand ils ont mis Noah Dobson sur le marché. Tu veux le plus de compétition pour ton joueur possible pour faire monter les enchères.
Ouais.
Parce que si tu es arrivé à un point où est-ce que tu vas l'échanger, mais tu veux le meilleur retour, la seule et unique façon de propulser vers un meilleur retour, c'est de t'assurer qu'il y a au moins deux clubs qui se rencontrent un contre l'autre puis qui augmentent. Ah, oh, j'ai un choix de premier tour. Ah, oh, je mets un deuxième centre. Ah, oh, je mets un deuxième centre plus un premier choix. Tu sais que puis c'est comme ça que tu fais monter les enchères. Donc, ça leur sert. Si c'était vrai, ça leur sert. Tu sais.
C'est toute une situation dans laquelle Bill Guerin et Marco. Ah, tu peux terminer ta phrase. Vas-y. OK. Bon.
C'est
bon.
Très difficile pour Bill Guerin.
Pardonnez-nous cette dernière minute chaotique de radio. Merci Marco, mon cher ami. La bonne nouvelle, c'est qu'on se reparle de tout ça demain, donc on va pouvoir se tenir au courant des différents dossiers. On te souhaite une très bonne fin de journée. Puis garde, tu connais ton numéro de téléphone, FX, à moi, à Ben. S'il y a quelque chose, tu rappelles. Hein? Tu nous le dis si tu as des informations fraîches, comme tu viens de nous révéler.
Avec plaisir. Passez une bonne journée, les gars.
Salut Marco.